France Culture.
Alors que Donald Trump pensait rétablir la paix en 24 heures, les négociations entre l'Ukraine et la Russie patinent. Tout semble faire barrage à une paix durable. La question territoriale, l'enjeu des ressources, l'architecture plus globale de sécurité. Le président américain, comme ce week-end au Vatican où il a rencontré Volodymyr Zelensky, poursuit son travail de médiation. Mais que souhaite-t-il véritablement? Piller l'Ukraine, vassaliser l'Europe, normaliser les relations avec la Russie ou emporter plus simplement une victoire politique et ainsi tourner la page? Pour en discuter, pour en débattre même, trois invités ce soir. Laurence Nardon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du programme Amérique de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous avez publié aux presses universitaires de France cet ouvrage intitulé « Géopolitique de la puissance américaine ». C'était en 2024. Et vous animez un podcast hebdomadaire intitulé « New Deal » qui porte sur l'actualité politique américaine. Face à vous, Martin Quincé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du German Marshall Fund à Paris. Vous êtes par ailleurs spécialiste des relations transatlantiques. Et à vos côtés, Pierre Vimont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Vous êtes ancien secrétaire général exécutif du Service européen pour l'action extérieure et chercheur associé au think tank Carnegie Europe. Merci à tous les trois d'être présents ce soir à Question du Soir.
Les présidents ukrainiens Volodymyr Zelensky et américain Donald Trump se sont brièvement rencontrés à huis clos au Vatican en amont des funérailles du pape François. Le directeur des communications de la Maison Blanche, Stephen Chung, a qualifié la rencontre de très productive.
Zelensky est-il prêt à renoncer à la Crimée ?
Oh, je pense qu'il y est prêt. Écoutez, la Crimée, c'était il y a 12 ans. C'était sous le président Obama. Ils l'ont abandonnée sans qu'un coup de feu ne soit tiré.
Notre position reste inchangée. Tous les territoires temporairement occupés appartiennent à l'Ukraine.
Je pense que nous avons un accord avec la Russie. Mais nous devons faire de même avec Zelensky. Mais je pensais que ce serait plus facile, mais jusqu'ici c'est compliqué.
Nous disons à l'Ukraine, nous serons prêts à vous aider lorsque vous serez prêts à faire la paix. Mais nous n'allons pas poursuivre cette entreprise pendant des semaines et des mois. Nous devons donc déterminer très rapidement si cela est faisable ou non au cours des prochaines semaines. Si c'est le cas, nous sommes prêts. Si ce n'est pas le cas, nous devons nous concentrer sur d'autres priorités.
Et voilà ce que déclarait le président américain sur son réseau social samedi. Il n'y avait aucune raison pour Poutine de tirer des missiles sur des zones civiles, des villes et des villages. Ces derniers jours, cela me fait penser que peut-être il ne veut pas arrêter la guerre et qu'il me balade. Et alors, il faut faire autrement. Fin de citation. Est-ce qu'il est, selon vous, Laurence Nardon, frappé d'une épiphanie ou est-ce qu'on a affaire à une énième volte-face du président américain ?
Le président américain a peu de patience, on le sait, et ce qu'on voit avec cette négociation qu'il essaye de mener par l'intermédiaire de Steve Witkoff, entre des Ukrainiens qui veulent se défendre, qui ne veulent pas lâcher sur la Crimée par exemple, même en tout cas pas officiellement, et une Russie qui n'a finalement aucun intérêt à arrêter rapidement la guerre, tant qu'elle continue à faire des gains territoriaux, eh bien, Trump ne réussit, se heurte au principe de réalité. Il va pas réussir, comme vous l'avez dit, à faire la paix en 24 heures, ni même avant Pâques. Et donc, on pourrait imaginer, c'est l'une des nombreuses hypothèses qui se posent cette semaine, qu'il en est ces jours-ci assez, et qu'il laisse tomber le dossier.
Que le dossier ne l'intéresse plus, vous
voulez dire. Que le dossier ne l'intéresse plus. Alors, il a beaucoup investi, et ce serait quand même ce serait difficile pour lui de le gérer politiquement, mais on se souvient que pendant son premier mandat, il avait pareillement laissé tomber le dossier nord-coréen. Si vous vous souvenez, il y avait eu trois rencontres, ça n'avait rien donné, et en fait, il est tout simplement passé à autre chose. Alors, je concède que ce serait quand même plus difficile pour l'Ukraine, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. En plus, cette semaine, il y a un coup de pression, puisque je crois que c'est Rubio qui a rappelé ce week-end, qui a dit ce week-end qu'on était tout près du but dans ces négociations. Donc là, je pense qu'il joue aussi un peu à souffler le chaud et le froid pour faire pression sur les deux parties.
Vous êtes d'accord, Martin Quincé, il est possible, au fond, que le président américain, que son administration, peu à peu, au fil des semaines, se désintéresse tout simplement parce que les résultats escomptés n'arrivent pas ?
Oui, je pense que c'est une possibilité. Il a du mal, Donald Trump a du mal à réconcilier des intérêts russes et des intérêts ukrainiens qui simplement sont tous opposés encore aujourd'hui. Et le coup politique de ce retrait, ce serait un vrai coup politique puisqu'il a promis à plusieurs reprises durant la campagne qu'il trouverait une solution à ce conflit. Il l'a promis à ses électeurs, c'est important. Peut-être moindre que le coup politique de négociations qui durent encore des mois et des mois et qui mettent en scène l'impuissance américaine. Ça a aussi un coût pour lui, de devoir envoyer Steve Witkoff ou le secrétaire d'État américain Marco Rubio lors de ces rencontres qui, finalement, ne mènent pas à la paix. Son agacement est parfois tourné vers la Russie, souvent vers l'Ukraine. L'enjeu pour les dirigeants russes et les dirigeants ukrainiens, c'est de faire en sorte que si Donald Trump devait se retirer, il ne les traiterait pas comme les coupables de cet échec. Ça, c'est le problème.
Je reviens un instant sur ce que vous disiez au début de votre intervention. Donald Trump a promis d'établir une paix en 24 heures à ses électeurs. Pourquoi formuler une telle promesse? En quoi les électeurs américains sont-ils concernés par ce qui se passe en Ukraine?
Si on revient sur la campagne présidentielle l'année dernière et même les mois avant, Donald Trump s'est positionné comme le candidat de la paix. L'idée que la politique étrangère de Joe Biden allait mener à la Troisième Guerre mondiale est une idée qui a été marquante tout au long de la campagne. Et à l'inverse, Donald Trump se présentait comme le seul qui pouvait empêcher cette Troisième Guerre mondiale. Que ce soit sur le dossier chinois, le dossier iranien ou le dossier russe-ukrainien, il a fait cette promesse avec moi. Les États-Unis ne s'engageront pas dans une nouvelle aventure militaire du type aventure en Irak, mais aussi nous trouvons des solutions diplomatiques pour éviter que la guerre ne produise vraiment une explosion mondiale.
Pierre Vimont, peut-être qu'il me balade, dit le président américain à propos de Vladimir Poutine. Comment est-ce que vous-même vous interprétez en tant que diplomate cette expression chargée de sens?
En tant que diplomate, on est assez surpris par la technique utilisée par Donald Trump et son équipe, parce qu'au fond, on a du mal à même penser qu'il s'agit vraiment d'une négociation. On a l'impression que c'est quelques initiatives prises par les uns ou les autres qui avancent avec, si on était gentil, on dirait avec un certain pragmatisme, si on est plus dur, en fait, dans un chaos assez indescriptible. Et donc, à partir de là, on a l'impression d'un président qui découvre le dossier à mesure qu'il avance et en fonction des derniers, le dernier qui lui a parlé. Il a soit parlé récemment avec Poutine, ou bien son envoyé spécial, Steve Witkoff, lui rapporte les propos de Poutine. Donc, il reprend un certain nombre d'arguments de Poutine. Et puis, comme on l'a vu, samedi, en marge des funérailles du pape François, il a un quart d'heure de conversation avec Vladimir Zelensky. On a l'impression qu'il en sort en adoptant la position ukrainienne. Donc, au fond, c'est pas tout à fait surprenant qu'on soit là où on en est à l'heure actuelle, parce qu'au fond, ce qui était important pour Trump, et ça, il le dit d'ailleurs, ce qui est bien avec Trump, c'est qu'il est assez transparent. C'est pas ma guerre, c'est la guerre qui me tombe dessus parce que elle a été en réalité mal gérée par mes deux prédécesseurs qu'il déteste, Barack Obama lors de la première guerre d'Ukraine, Biden pour la deuxième guerre d'Ukraine, et donc, comme ça a été très bien dit, je suis un homme de paix, donc je veux y mettre un terme. Mais si personne ne veut le faire, eh ben tant pis pour eux, qu'ils se débrouillent.
Mais vous dites, Pierre Vimont, que Donald Trump semble découvrir le dossier, et pourtant ce dossier, il le portait déjà en partie lors de son premier mandat, la question de la Crimée. Il s'était exprimé sur cette question territoriale, sur la question par ailleurs de l'ingérence russe, des velléités russes à propos du territoire ukrainien. Là aussi, il avait pris position lors de son premier mandat.
Oui, mais je dirais, comme toujours avec Trump, de manière assez superficielle. Et au fond, pour lui, ce qu'il a vraiment retenu de son premier mandat à propos de l'Ukraine, c'est en réalité la querelle qu'il a eue avec Zelensky, qui était une querelle de politique intérieure. Vous vous souvenez sans doute qu'il espérait que Vladimir Zelensky l'aiderait à trouver des preuves des escroqueries menées par le fils Biden. Zelensky, qui était tout jeune, nouveau président, un peu surpris de se retrouver pris au cœur de la politique intérieure américaine, s'est distancié. Et du coup, Trump lui en veut beaucoup. Je pense qu'il lui en veut encore aujourd'hui à ce propos.
Laurence Nardon, qu'est-ce qu'a produit le week-end qui vient de s'écouler, justement cette rencontre entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky? Qu'est-ce qu'elle a pu permettre de produire? Les deux côtés disent que cela s'est relativement bien passé, mais plus concrètement?
J'ai l'impression, enfin, pour reprendre les propos de Pierre Vimont, que Trump est toujours influencé par la dernière personne à qui il a parlé et que donc il y a eu... il a tenu des propos un peu plus critiques de la Russie. Il a, comme vous l'avez dit dans l'introduction, il a critiqué les frappes russes sur l'Ukraine en disant que c'était pas bien quand on négociait de faire ça. On a vraiment l'impression qu'il reprend les propos. C'est vrai qu'il est un peu comme une girouette là-dessus, mais il y a quand même certains points sur lesquels Trump a, on devrait dire, une colonne vertébrale sur cette question ukrainienne. Ça n'est pas une bonne colonne vertébrale, c'est cette surprise stratégique que nous avons tous vécue dans les 100 jours qui viennent de s'écouler, qui est le rapprochement des États-Unis de Trump avec la Russie de Poutine, un rapprochement idéologique avec le lâchage de l'Europe qu'on a vu lorsque J.D. Vance est venu à la conférence de Munich, c'était en février. Donc il peut dire des choses un peu plus critiques de la Russie, mais sur le fond, cet énorme tournant de l'attitude idéologique des États-Unis est quand même quelque chose qui me semble ne pas bouger.
Martin Quincey, vous êtes d'accord avec Pierre Vimont lorsqu'il explique qu'au fond, il n'y a pratiquement pas de négociation au sens diplomatique du terme. On a l'impression d'un chaos qui progresse lentement, semaine après semaine.
Je pense que pour Donald Trump, le fait que sa méthode soit différente de ce que l'on a l'habitude de voir dans des négociations diplomatiques est plutôt un avantage. D'abord parce qu'il se positionne comme un président qui est différent de ses prédécesseurs, qui ne fait pas les choses comme Barack Obama, comme même George Bush. Et c'est pour ça que ça va marcher. Donald Trump a aussi été élu parce que les Américains sont mécontents de la manière dont les différents présidents précédents ont géré les questions internationales et les questions intérieures. Donc, proposer une méthode totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est plutôt...
Qu'est-ce qui est totalement différent dans ce qu'il propose là ?
Dans le choix, par exemple, de son envoyé spécial, de Steve Witkoff, qui est quelqu'un qu'il connaît, qui n'a absolument pas un bagage diplomatique, qui est quelqu'un du secteur privé.
Et spécialiste de l'immobilier, donc plutôt que faire confiance à Marco Rubio, par exemple.
Absolument. Et qui se retrouve non seulement en charge du dossier ukrainien, mais également des négociations avec l'Iran, mais également de la question de la guerre entre Israël et Hamas, peut-être demain d'une nouvelle négociation sur la Corée du Nord. C'est une méthode qui surprend. Mais je pense que pour Donald Trump, c'est plutôt un point qu'il utilise en sa faveur quand il s'agit de communiquer avec les Américains. Le problème, c'est que il est venu, et finalement les Européens avaient aussi ce problème, il est venu dans cette négociation avec une certaine idée de ce qu'étaient les intérêts russes et les intérêts ukrainiens. Il pensait, et je crois qu'il est sincère, que cette guerre n'a aucun sens aujourd'hui. Il ne sert ni la Russie ni l'Ukraine, et donc c'est absurde de ne pas vouloir faire la paix. Il se rend compte qu'aujourd'hui, les Russes et les Ukrainiens lui montrent que leurs intérêts sont différents de ce qu'il avait en tête. Là où je ne condamnerai pas Donald Trump, c'est que nous, Européens, avons fait probablement la même erreur à plusieurs reprises, notamment avant le début de l'invasion en février 2022, lorsque beaucoup d'Européens expliquaient que la Russie ne lancerait jamais cette invasion parce que ce n'était pas dans son intérêt.
Pierre Vimont, on a beau expliquer que Donald Trump a exprimé quelques doutes au sujet du président russe, et pourtant son discours diplomatique, je parle de celui de Donald Trump, épouse encore entièrement, totalement la vision russe des choses dans le rapport à la Crimée, dans le rapport à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, dans l'idée même aussi que c'est la Russie qui a été attaquée dans cette guerre et non l'Ukraine qui est la victime. Donald Trump est encore totalement du côté des Russes.
Oui, en partie. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est parce qu'il ne faut jamais sous-estimer Donald Trump, et qu'en effet, c'est quelqu'un qui a une certaine idée de ce qu'il veut faire. Et à mon avis, son objectif, je peux me tromper, on se trompe souvent sur Donald Trump, mais il me semble que ce qu'il voulait, c'était de faire aussi vite que possible, il l'a répété à plusieurs reprises, un cessez-le-feu Encore une fois, un cessez-le-feu, ce n'est pas un accord de paix. Un cessez-le-feu, comme il a dit, immédiat, sans condition, et sur air, terre et mer, vraiment. C'était ça l'idée pour lui permettre, et c'est le deuxième volet de son offensive ou de son initiative diplomatique, pour s'engager, on l'a déjà dit, dans une normalisation des relations bilatérales avec la Russie, avec lequel il voudrait reprendre les relations politiques, la coopération économique et d'autres choses encore. Il a pensé que si on fait le cessez-le-feu et tout le monde pourrait être d'accord, pour la raison qui était expliquée tout à l'heure, c'est absurde de se tirer dessus, il faudrait mieux s'arrêter, il pourrait passer, le cessez-le-feu va s'éterniser, espérons, et puis on verra bien comment ça évolue.
Vous présentez Trump comme un quasi-pacifiste, là, c'est étonnant.
Oui, mais il y a de ça chez lui. Et qu'en revanche, il pourrait s'occuper de ce qui l'intéresse, qui est la relance des relations avec la Russie, le 8-7, que Barack Obama avait d'ailleurs essayé en son temps. Le problème, c'est que les Russes n'ont pas mordu à l'hameçon, et on dit tout à fait d'accord pour un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu sans condition, c'est un cessez-le-feu qui va être bénéfique aux intérêts ukrainiens. Donc je demande qu'on introduise dans le cessez-le-feu des éléments de ce qui pourra être plus tard un accord de paix, c'est-à-dire l'OTAN, la question de la Crimée et des territoires occupés par la Russie, etc., etc. Et comme ce qui tient à cœur à Trump, c'est la relance des relations avec la Russie, eh bien, il s'est dit, je vais reprendre quelques éléments, et puis ça va marcher. Et puis, il s'est aperçu que les Ukrainiens sont furieux, les Européens aussi, et qu'ils ne marchent pas du tout. Et que donc, son beau plan, ce qui était assez simple, est bloqué. D'où l'idée que s'il n'arrive pas à faire ce qui était au départ ce qu'il voulait, c'est-à-dire un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, eh bien, il va laisser tomber, avec peut-être l'idée qu'on viendra le rechercher d'ici quelques temps.
Laurence Lardon, vous qui êtes spécialiste ici de l'exégèse trumpiste, vous êtes d'accord avec l'approche de Pierre Vimont? Dans le fond, c'est un cessez-le-feu manqué d'abord que Donald Trump tente aujourd'hui de rattraper?
Ben oui, il est arrivé avec un projet assez simple, enfin simpliste en réalité. Mais si vous permettez, je voudrais faire un pas en arrière, une petite seconde de politique fiction et d'être presque très cynique, parce que donc ce qu'engage Trump avec cette recherche de cesser le feu et puis d'un accord de paix, il faut bien voir que si c'était Kamala Harris qui avait été élue, politique fiction en effet, tout le monde savait bien que la guerre en Ukraine devait trouver un terme, et même les Européens et même une administration démocrate en 2025 auraient eu le dos au mur à se dire on ne peut pas continuer à tenir la tête des Ukrainiens hors de l'eau sans soit les aider massivement pour qu'ils gagnent, mais c'était pas possible parce que c'était une escalade trop dangereuse vis-à-vis de la Russie. Il fallait de toute manière sortir de cette guerre affreuse et sans issue véritablement favorable pour les Ukrainiens. Et donc, il y aurait eu très vraisemblablement des tentatives de négociation. Alors, elles n'auraient pas été comme celles que fait Trump. Elles auraient été beaucoup moins favorables à la Russie, en tout cas dans un camp occidental qui serait resté uni.
Mais vous voulez dire que l'idée même de paix, l'idée d'un cessez-le-feu, aurait de toute façon, quoi qu'il en soit, tracé son chemin?
Je crois que l'idée de négocier une sortie de ce conflit aurait été en effet sur la table, même avec une administration démocrate, certes dans d'autres conditions, on est bien d'accord.
Vous souhaitez réagir tous les deux, Pierre Vimont pour commencer?
Très rapidement, oui. Et d'ailleurs, c'est un point très intéressant, c'est que les Européens comme les Ukrainiens ne cessent de répéter actuellement qu'ils trouvent que l'initiative de Trump en soi était une bonne idée. Le cessez-le-feu est une bonne idée, disent-ils tous. Et ce qu'ils aimeraient, c'est qu'ils reviennent sur cette base-là et qu'ils défendent à nouveau son idée initiale d'un cessez-le-feu. Parce qu'en réalité, tout le monde a envie, sauf peut-être les Russes, qui ont le sentiment qu'ils ont l'avantage sur le terrain, tout le monde a envie qu'au moins le combat cesse. Et à partir de là, qu'on essaye de voir si on peut essayer de lancer quelque chose qui ressemblerait à une négociation de paix.
On va revenir à la Russie, à la sincérité potentielle de la Russie. Une réaction, Martin Quincey?
Oui, juste une question que pose Marco Rubio aux Européens ou aux observateurs qui parfois ont été critiques sur la méthode de Donald Trump. C'est de dire, Pensez-vous que dans 6, 12 ou 18 mois, l'Ukraine sera dans une meilleure position pour à nouveau négocier ce cessez-le-feu ou cette paix? Et la position américaine est que non, l'Ukraine n'est pas aujourd'hui en position pour gagner davantage de territoire ou se renforcer par rapport à la Russie. Donc il vaut mieux faire la paix aujourd'hui que de relancer le process dans 12 mois.
C'est maintenant le meilleur moment pour l'Ukraine.
L'idée étant qu'en 2022, en novembre 2022, le général Milley, qui était chef d'état-major américain à l'époque, avait déjà dit c'est probablement le meilleur moment pour l'Ukraine de lancer des négociations avec la Russie, lorsqu'elle était parvenue à l'époque à repousser la première offensive, et que chaque mois qui passe, l'Ukraine va perdre davantage de terrain. Donc les Américains sont toujours dans cette position, qui était vraie sous Biden, qui est vraie également sous Trump, que le temps joue en faveur de la Russie et que c'est dans l'intérêt de l'Ukraine de faire la paix le plus vite possible.
Alors Martin Quincey, toujours sur la sincérité russe, vous-même vous y croyez? Vous croyez à la volonté réelle de Vladimir Poutine d'aller vers un cessez-le-feu, d'aller vers une paix durable?
Non, la question n'est pas du tout de savoir si Vladimir Poutine veut la paix. La question, c'est...
C'est ce qu'il affirme, lui, en tout cas.
La question, c'est est-ce que Vladimir Poutine considère que c'est dans l'intérêt, dans ses intérêts, aujourd'hui, de signer un accord de cessez-le-feu. On n'a pas forcément, il y a énormément de propagande sur la question, d'un côté comme de l'autre, une estimation, une évaluation très claire de l'état des forces, de la capacité russe et ukrainien à continuer l'effort de guerre pendant encore de nombreux mois ou de nombreuses années. Les États-Unis espèrent qu'en donnant beaucoup à la Russie aujourd'hui, vous obtenez ce premier accord qui, comme disait Pierre Vimont, serait la base pour une paix. Mais il faut d'abord mettre fin à ce que Donald Trump appelle mettre fin aux tueries pour ensuite travailler sur les contours d'une paix. D'autres considèrent qu'à l'inverse, il faut d'abord s'accorder sur les principes de cette paix avant de pouvoir vraiment négocier avec la Russie.
Vous êtes d'accord, Pierre Vimont? On se fiche un peu au fond des déclarations de Vladimir Poutine. Ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est lire les intérêts en présence de la Russie.
Oui, oui, avec cette idée assez simple dans ce genre de situation, qui est que les deux parties finissent par accepter l'idée d'un cessez-le-feu quand elles estiment l'une et l'autre qu'elles n'ont plus rien à gagner sur le terrain. Or, c'est pas le cas à l'heure actuelle. Les Russes continuent à penser qu'ils peuvent gagner et les Ukrainiens continuent à penser qu'ils peuvent ne pas perdre, à tout le moins. Et donc, aucune des deux parties, en vérité, n'a pour le moment vraiment envie de se lancer dans un cessez-le-feu. Les Ukrainiens sont dans la situation la plus difficile. Ils se sont fait tordre le bras par Trump. Il y a eu cette réunion très désagréable dans le bureau ovale.
La réunion entre le président ukrainien et le président américain avec le vice-président.
Et le vice-président américain. Également, le Premier ministre britannique Emmanuel Macron sont revenus et ont expliqué à Vladimir Zelensky qu'il fallait peut-être faire preuve d'un peu plus d'ouverture par rapport à ce projet de cessez-le-feu. Donc voilà, il s'est rangé derrière la proposition américaine. Poutine, pour le moment, en réalité, ne veut pas d'un cessez-le-feu immédiat, sans condition, en quelque sorte tout nu. Il a envie de grappiller quelque chose en plus. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'aboutir à un accord pour le moment sur ce cessez-le-feu.
La voix de la porte-parole de la Maison-Blanche. Je voudrais maintenant qu'on s'intéresse à la question des ressources qui traversent l'Ukraine et leur usage par les forces en présence. Elle s'exprimait le 19 mars dernier.
Le président Zelensky a remercié le président pour son leadership dans cet effort et a réitéré sa volonté d'adopter un cessez-le-feu complet. Le président Trump a également évoqué l'approvisionnement en électricité et les centrales nucléaires de l'Ukraine. Il a déclaré que les États-Unis pourraient être très utiles dans la gestion de ces centrales grâce à leur expertise en matière d'électricité et de services publics. La mise sous propriété américaine de ces centrales garantirait la meilleure protection pour ces infrastructures et plus généralement pour l'infrastructure énergétique ukrainienne dans son ensemble.
On va parler des ressources minières, mais avant cela, parlons du nucléaire, Laurence Nardon. Pourquoi Donald Trump s'intéresse-t-il à la plus grande centrale nucléaire d'Europe? Je parle de Zaporijjia, 6 réacteurs qui sont aujourd'hui contrôlés par la Russie.
Alors, elle est effectivement dans une zone contrôlée par la Russie, mais je crois que le personnel à l'intérieur de la centrale reste ukrainien. Et effectivement, les États-Unis proposent d'en prendre le contrôle. L'une des hypothèses de cette démarche américaine, c'est qu'ils se serviraient de l'électricité pour faire fonctionner les usines de traitement des terres rares. Alors, ce qui ouvre un autre sujet, qui est ce fameux deal sur les terres rares que Trump annonce signer de manière imminente depuis plusieurs semaines. Volodymyr Zelensky s'y est refusé jusqu'à présent. Mais à vrai dire, alors je parle sous le contrôle de mes deux collègues, mais on ne sait pas très bien quelle est la véritable richesse que les États-Unis pourraient en tirer, puisque la plupart des zones les plus riches en terres rares sont sous contrôle russe actuellement. Celles qui sont sous contrôle ukrainien et qui seraient dévolues aux intérêts américains sont moins riches, plus difficilement exploitables. Et donc, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien ce que ça donnerait si ça se faisait. Et puis, sur le fond, c'est quand même de l'extorsion, ce deal sur les terres rares de la part des États-Unis de Trump. Ça n'est pas très habituel quand même.
C'est de l'extorsion, mais dans le même temps, Pierre Vimont, l'idée originelle, est-ce qu'elle ne vient pas des Ukrainiens eux-mêmes, des Ukrainiens qui ont voulu peut-être réfléchir à utiliser leurs propres ressources, notamment pour obtenir les fameuses garanties de sécurité américaines ?
C'était une idée qui était dans le plan de paix que Zelensky avait esquissé après l'été de l'année dernière et qu'il avait essayé de défendre auprès de ce qui était encore à l'époque l'administration Biden.
Donc l'idée originelle est ukrainienne.
Elle est ukrainienne et l'administration Biden avait commencé déjà à regarder comment on pourrait éventuellement, le moment venu, exploiter les minerais critiques. J'appelle votre attention d'ailleurs sur le fait que les premiers qui ont commencé à parler avec les Ukrainiens de minerais critiques, c'était les Européens. Dans leur accord association de 2014-2015, il y a un petit chapitre sur coopération. Il y a à peu près des chapitres sur 150 secteurs, mais il y a un secteur de minerais critiques qui est dans l'accord. Mais pour Trump, qui n'était pas forcément très intéressé au départ, on a réussi à l'intéresser parce que pour lui, l'idée est assez simple. L'Amérique a donné beaucoup d'argent à l'Ukraine, il faut qu'elle se fasse rembourser. Du coup, quand on lui a expliqué qu'il pourrait se faire rembourser avec les minerais rares, il a dit tout à fait d'accord. J'estime, il a donné une estimation totalement exagérée, que j'ai à peu près donné 350 milliards de dollars à l'Ukraine, alors qu'en réalité on est plutôt près de 120, 130 milliards. Il faut donc qu'il me rembourse à hauteur de 350 milliards. Et c'est comme ça que cette négociation a commencé. Et comme en réalité personne ne sait comment, pour quel montant on pourra exploiter ces minerais critiques, on a commencé à essayer de chercher d'autres sources possibles de revenus sur ce fonds d'investissement que Américains et Ukrainiens doivent développer. Mais ce qui est fascinant, et là on revient sur ce que disait Laurence il y a quelques minutes, c'est qu'il y a encore moins d'une semaine, dans le bureau ovale, en présence de Madame Meloni, Trump a dit cet accord, on est pratiquement arrivé au bout, on va le signer dans quelques jours, c'est-à-dire la semaine dernière, en marge des réunions du Fonds monétaire international.
Alors qu'un mémorandum avait été signé par ailleurs, voilà, quelques semaines avant.
Mais en réalité, les Ukrainiens avaient dit que c'était pas du tout prêt, mais Trump n'en parle plus du tout actuellement. C'est intéressant, il n'y fait plus aucune allusion. Alors ça va peut-être revenir dans 2-3 jours, mais pour le moment, il semble avoir oublié ce projet d'accord.
Comment vous expliquez vous-même, Martin Quincé, que ce projet d'accord a été oublié, que cette négociation semble être dans les limbes?
Encore une fois, c'est le projet en lui-même peut avoir un intérêt, mais la mise en œuvre est plus compliquée que ce qui était imaginé et ce que Donald Trump peut avoir en tête. Pour les Ukrainiens et pour les Européens, la question c'est de pouvoir conserver une présence américaine, non seulement sur le continent européen, mais en particulier en Ukraine. Pouvoir garantir que les garanties de sécurité pour l'Ukraine après un cessez-le-feu ne soient pas simplement de la responsabilité des Européens. Avoir une présence américaine sur ces terres rares, sur cette centrale électrique, cela permet de créer une forme de dissuasion potentiel vis-à-vis de la Russie, puisque si vous avez du personnel américain, c'est pas forcément du personnel militaire, mais c'est des personnels américains, d'un coup, le président des États-Unis ne peut pas complètement se désintéresser de la question ukrainienne. Parce que c'est aussi ça le scénario qui fait peur à la fois à Kiev et à un ensemble de pays européens, c'est que Donald Trump, s'il parvient à signer cet accord, puisse dire « j'ai fait mon travail, j'ai rempli ma promesse, maintenant c'est totalement un problème européen ». Et là, nous serions confrontés à des problématiques de sécurité vis-à-vis de la Russie que nous ne pouvons pas forcément porter seuls.
Laurence Dardon, si j'ai bien écouté Martin Quincey, la conclusion logique, c'est que les garanties de sécurité, pour revenir sur ce sujet, ces garanties, du point de vue américain, ne verront absolument jamais le jour. Il n'y aura pas d'Américains en Ukraine pour favoriser, maintenir un état de paix ?
Alors, à part si quelque chose se met en place sur des mines de terres rares ou une centrale nucléaire ou plusieurs, oui, bah ça c'est évident que Donald Trump, depuis son premier mandat, a cette attitude d'une politique étrangère très nationaliste, mais un nationalisme de repli. Enfin, jusqu'à présent, on va pas aborder aujourd'hui la question des nouvelles revendications territoriales de Trump, parce que ça, elle ne se situe pas
en
Ukraine.
C'est un sujet en soi.
Oui, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'Ukraine, l'Afghanistan, bon, le Moyen-Orient, à part Israël, on le voit bien. Bref, Trump a toujours eu cette posture en politique étrangère de repli et de désengagement. Et donc, oui, son objectif est très clairement, mais vraiment, ça c'est l'une des choses sur lesquelles il change jamais d'avis, c'est assez rare pour qu'on le souligne, de dire que sur l'Ukraine, il veut que les États-Unis ne s'en occupent plus et on a quand même l'impression qu'il ne veut pas du tout que les États-Unis soient impliqués dans les garanties de sécurité qui seraient laissées entièrement aux Européens.
Comment comprendre justement, Pierre Virmont, la position européenne sur ces questions de sécurité ? On a l'impression qu'il y a un accord sur le principe, sur les grands principes, sur l'idée même, j'allais dire, de garantie de sécurité. Mais là encore, dans la concrétisation, il y a des dissensions profondes. Les Français, eux, tentent de favoriser une approche terrestre, tandis que les Anglais, notamment à travers la voix de Keir Starmer, favorisent, eux, une approche aérienne et navale. Comment réconcilier l'un et l'autre ?
La raison de ces différences, c'est bien évidemment le risque en cas de présence de troupes européennes terrestres dans une situation de ni guerre ni paix où il y aurait beaucoup d'incidents militaires, etc., c'est de se retrouver à un moment pris dans le feu des Russes.
Et que les choses s'emballent.
Et donc toute l'idée défendue par un grand nombre d'Européens, c'était d'avoir la garantie d'une présence américaine qui dissuaderait la Russie de s'engager face à des troupes américaines et européennes qui seraient là. Comme l'a très bien dit Laurence, l'Amérique ne veut pas. Trump n'a aucune envie de nouvelles aventures militaires. Il est au contraire désireux de se replier de partout. On le voit actuellement dans le nord de la Syrie où il envisage de retirer les quelques troupes américaines qui s'y trouvent. Donc c'est pas du tout son objectif. Du coup, les Européens se retrouvent, j'allais dire, avec cette patate chaude qui est, ils seront les seuls à assurer une forme de garantie de sécurité. Alors il y a d'autres manières de le faire et le président de la République l'a ramené lui-même, c'est d'aider par un soutien militaire, financier, etc.
Comme on le fait déjà depuis plusieurs années.
Mais à le faire encore à un niveau supérieur, d'aider l'armée ukrainienne à être, comme on le dit, un porc-épic en fer, selon l'expression anglo-saxonne. Et puis, en effet, peut-être d'être là en retrait, en deuxième ligne, comme un soutien supplémentaire, avec de la formation si nécessaire, etc. Mais j'ajoute un autre point qui est tout à fait intéressant. S'il y avait un cessez-le-feu, va se poser très vite la question du mécanisme de surveillance et de vérification de ce cessez-le-feu. Comme c'est les Américains qui le négocient, tout le monde a dit aux Américains, mais est-ce que c'est vous qui allez assurer ce mécanisme ? Et la première réaction des Américains, c'est de dire, oui, peut-être en l'air, avec nos satellites, mais sûrement pas au sol. Et donc on voit bien qu'il y a ce souci très fort des Américains de ne pas se trouver mêlés dans le conflit.
Martin Quincey, votre point de vue sur ces garanties de sécurité, est-ce qu'elles sont mortes dans l'œuf par construction parce que les Américains d'ores et déjà refusent d'y participer ?
nos garanties de sécurité européennes, si elles dépendent d'assurances américaines à nous défendre en Ukraine, pour moi, sont mortes dans l'œuf. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a été très clair lorsqu'il est venu à Bruxelles. Non seulement les Américains ne participeront pas à ces garanties en Ukraine, mais ils n'assureront pas la sécurité des troupes européennes qui pourraient être déployées en Ukraine. Ça, je pense qu'il faut prendre ce message au sérieux et ne pas forcément essayer de pousser les Américains à fournir des garanties qu'ils ne prendront pas en charge. Cependant, il y a un certain nombre d'éléments que les Américains fournissent actuellement, notamment au niveau des renseignements satellites, qui sont absolument nécessaires et à l'effort de guerre ukrainien et à d'éventuelles garanties européennes. Et c'est sur ce point qu'il faut mettre une ligne rouge à Donald Trump, en considérant que s'il souhaite que son accord de cessez-le-feu fonctionne, s'il souhaite aussi éviter un échec total de cet accord dans quelques mois, il a besoin des garanties de sécurité que les Européens vont fournir. Donc c'est aussi dans son intérêt politique de faire en sorte que les Européens puissent faire tenir une situation qu'il aura lui-même, entre parenthèses, réglée.
Laurence Lardon, la conclusion de toute cette discussion, pour revenir à la question première de cette émission, on a le sentiment que les Américains n'attendent qu'une chose, c'est de se désinvestir, de se désengager entièrement du continent européen, notamment en matière militaire et stratégique.
Oui, et c'est pour ça que cette semaine va être assez semble être partie pour être importante, puisque Marco Rubio laissait entendre que c'était un peu la semaine de la dernière chance. Soit on était près du deal, soit, comme on l'a dit en début d'émission, Donald Trump se désintéresserait du dossier.
On écoute justement Marco Rubio qui reprend justement vos propos.
Nous avons fait une proposition très explicite aux Russes et aux Ukrainiens, et il est temps pour eux de dire oui ou pour les États-Unis de se retirer de ce processus. Nous nous sommes engagés dans un travail diplomatique extraordinaire sur le terrain. Nous avons vraiment essayé de comprendre les choses du point de vue des Ukrainiens et des Russes. Qu'est-ce qui préoccupe le plus les Ukrainiens? Qu'est-ce qui préoccupe le plus les Russes? Et je pense que nous avons élaboré une proposition très équitable. Nous allons voir si les Européens, les Russes et les Ukrainiens sont finalement capables de faire passer la ligne d'arrivée à ce projet.
C'était la voix de J.D. Vance, le vice-président américain qui reprenait les propos de Marco Rubio. Votre point de vue, Laurence Nardon?
On n'a pas de boule de cristal dans ce studio, donc on va voir ce qui se passe cette semaine. Soit les Américains réussissent à faire naître un deal, sachant qu'il faudrait qu'ils participent aux garanties de sécurité, comme l'a dit Martin, mais on ne sait pas très bien comment, puisqu'ils ne veulent pas être... ils veulent en faire le moins possible. Et puis, si ça ne marche pas et qu'ils passent à autre chose, comme on l'a dit aussi, autre hypothèse, eh bien, on verrait l'Ukraine abandonnée et abandonner aux volontés russes de la faire entrer dans sa sphère d'influence. Parce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les États-Unis de Trump voient le monde en sphère d'influence. Donc il y a cette sphère d'influence russe qui cherche à grignoter sur l'Europe orientale et l'Europe centrale. C'est ce qu'on voit avec l'Ukraine. C'est ce que les Polonais et les Baltes craignent plus que tout, évidemment. Sachant qu'aujourd'hui, ces sphères d'influence ne sont plus dans une opposition idéologique, mais dans une sorte de collusion idéologique entre les États-Unis de Trump et la Russie de Poutine, comme je le disais tout à l'heure.
Merci à tous les trois d'être venus porter la lumière sur ces négociations quelque peu chaotiques. Laurence Nardon, Martin Quincé et Pierre Vimont.